Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est un être au teint pâle qui boit le sang des vivants, craint l'ail et ne meurt que sous le coup d'un pieu enfoncé dans le cœur, à moins que ce ne soit sous la lumière d'un rayon de soleil. Si le folklore que l'on associe au personnage du vampire paraît aujourd'hui relativement stable, il a varié au cours des trois derniers siècles. En 1980, pour l'émission La matinée des autres, Roland Hoguet se proposait de remonter aux sources du mythe. De ses origines antiques à la doctétude que lui consacra le prêtre Don Calmet au XVIIIe siècle, du rôle fondamental du Dracula de Bram Stoker au Nosferatu de celluloïde de Murnau, Todd Browning ou encore Werner Herzog, grandeur et misère du vampire était évoquée dans cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 octobre 1980.
Corriere della Sera, 10 septembre 1980, le loup-garou de la Spiezia. Le quotidien de Milan, Corriere della Sera, raconte l'étrange affaire qui vient de se dérouler à la Spiezia, principal port de guerre de la péninsule. On entendait hurler la nuit dans les bois proches de Fabiano Alto, petite bourgade de 6000 habitants, qui, derrière leurs fenêtres closes, étaient persuadés d'avoir affaire à un loup-garou. Les plus courageux, après trois nuits passées de la sorte, se décidèrent à faire quelque chose et une dizaine de jeunes gens, armés de bâtons et de chaînes de vélo, se mirent en chasse du monstre. Ils parvinrent à traquer le loup-garou et à le localiser au plus profond d'un fourré, où ils le bombardèrent de grosses pierres en attendant l'arrivée de la police. Enfin appréhendé, le gibier se présentait sous la forme d'un homme aux propos incompréhensibles, aux yeux injectés de sang et à la jambe en piètre état. Certains remarquèrent qu'il était anormalement velu. En fait, il s'agissait d'un marin américain de 19 ans qui, parfaitement ivre, s'était cassé une jambe. Ses hurlements, trois nuits durant, étaient des appels à l'aide.
La matinée des autres. Le folklore des vampires. Par Roland Hoguet. Avec Roger Dadoun, écrivain. Georges Dretas, attaché de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Serge Fauchereau, écrivain. Claude Capler, maître assistant à l'Université de Strasbourg. Gérard Legrand, écrivain. Roland Villeneuve, écrivain.
Sinon je ferai remonter les morts qui prennent la vie des vivants, et sur les vivants se multiplieront ces morts.
C'est un mythe qui prétendument, enfin, prend naissance en Europe centrale. En fait, l'histoire du vampirisme, ça remonte à la nuit des Andes, au siècle des cavernes, enfin, à l'homme primitif. C'est une peur du lendemain. L'homme ne sait pas. Il est entouré de spectres, de lamis, de monstres malfaisants, de striges, enfin des enfants qui sont sucés par des sorcières petit à petit quand les religions commencent à naître. Et naturellement, il y a dans toutes les civilisations primitives, entre guillemets, puisque primitive maintenant ça ne veut plus dire grand-chose, toutes ces civilisations, il y a des morts malfaisants qu'il faut apaiser. Ces morts malfaisants reviennent sous forme de spectres, comme je vous le disais, de fantômes, de ghouls, ou encore de vampires. Enfin, le thème même de vampire naîtra seulement avec l'apparition, enfin tout au moins dans l'Europe occidentale, avec l'apparition du traité, enfin des apparitions de Hongrie et Moravie, rédigé par le révérend père Don Calmet, deux volumes 1751. C'est là que la première fois on aura une espèce d'anthologie des vampires existants de par le monde. Les vampires, on les rencontre, comme je vous disais, de très très loin, et on a trouvé en Russie, en Tchécoslovaquie, des tombes remontant au XIIe, XIIIe siècle, dans lesquels les morts étaient couchés à l'envers, c'est-à-dire qu'ils étaient censés ne plus remonter à la surface, mais s'enfoncer de plus en plus dans la terre et disparaître complètement aux yeux des humains. Également, d'autres crânes qui étaient trépanés, percés, pas la trépanation médicale, mais la trépanation pour se défaire du vampire. Et également, on a trouvé des squelettes où un pieu apparaissait, ce qui fait donc que l'on croyait déjà, à ces époques très anciennes, à la présence possible des vampires.
S'il y a dans le monde une histoire attestée, c'est celle des vampires, écrivait bravement Jean-Jacques Rousseau dans sa lettre à l'archevêque de Paris. Paradoxalement, c'est au siècle des Lumières que le vampire, autrefois confondu dans la foule innombrable des démons, acquiert une existence individualisée, au point qu'on assista en Autriche à de véritables procès de cadavres. Peut-être y eut-il, dans cette façon de ressusciter un cadavre sans âme, la manifestation inconsciente d'une révolte contre l'idée d'immortalité.
Pour quelque raison, la nouvelle s'est répandue qu'il y avait des vampires, des broucolaques ou des autres types de vampires qui sévissaient en Roumanie, en Yougoslavie, en Macédoine, en Hongrie, et on s'est mis à se passionner pour cela. Les prêtres s'en sont mêlés tout de suite, bien entendu. Il y avait là sujet pour eux de répondre à ceux qui dédoraient leur blason considérablement. C'était façon de répondre aux Voltaire, Diderot, d'Alembert et autres. Bon, il y a eu des prêtres célèbres qui s'en sont occupés, les Dom Pernetti, les Dom Calmet et autres. Tout cela, sous prétexte d'éclaircir, tiré du côté d'une publicité pour la religion, cependant. Et je pense que les prêtres n'ont pas été pour peu de choses dans la fixation de l'image du vampire d'une part et dans sa publicité. Puisque Voltaire, lorsqu'il parle des vampires, dans son dictionnaire philosophique, le fait tout à fait dubitativement, bien sûr, on ne pouvait qu'attendre ça de Voltaire. Il y a plusieurs façons, si on étudie le mythe lui-même, repenser aux différentes façons qu'il y a de détruire le vampire ou de le repousser. On peut classer ces façons en folklore et en religieux. Le folklore, c'est l'ail, les colliers de gousses d'ail qu'on met autour des personnages. C'est l'eau vive, l'eau des torrents, qui détruisent le vampire. Et autre chose, la lumière du jour. Donc tout ce qui est clarté, ou tout ce qui est plante magique. L'ail a été considéré longtemps comme une plante magique. Bon, j'en oublie certainement, je cite que les plus connus. Et d'autre part, vous avez tout ce qui est chrétien, à savoir le crucifix qui repousse le vampire, il suffit de lui en montrer un pour qu'il se sauve ou qu'il se sente aveuglé, l'eau bénite, et plus récemment, avec l'apparition des fusils, la généralisation des fusils, eh bien, la balle bénite sur laquelle on a gravé un crucifix, par exemple, c'est une balle d'argent, c'est important, vous sert à tuer le vampire. Donc il faut un métal noble pour tuer le vampire, qui le tue lorsqu'on lui touche le cœur, de la même façon que le tue le fameux pieu de bois qu'on enfonce dans le cœur du vampire. Le pieu de bois est tradition folklorique, païenne, et la balle bénite, ou le crucifix, est la tradition chrétienne, plus récente.
Il existait déjà chez les Grecs. Et vraisemblablement, la mythologie enfin, dont relève le vampire vient d'Orient, vient des Indes. Et là, il ne s'agit pas seulement du vampire, il s'agit d'un certain nombre de mythes connexes. Le mythe de l'homme-loup, le mythe du loup-garou, et aussi le mythe de l'homme-chien, l'homme à tête de chien en particulier. Et par toutes sortes de détours, ils sont arrivés à nous, et ils sont arrivés en particulier dans les Balkans, où ils se sont très bien conservés, si on peut dire. Le mythe de l'homme-chien ou de l'homme-loup est un mythe très répandu chez les Turco-Tatars, par exemple les Mongols, Gengis Khan. La horde de Gengis Khan descend d'un ancêtre mythique qui est un loup gris. Loup gris qui s'est allié à une biche blanche. Donc ils ont pour ancêtre mythique un loup, un animal. Et on va retrouver cette légende sous différentes formes. Après, chez nous, on retrouve par exemple Romulus et Rémus, non pas fils d'une louve, mais enfin allaités par une louve. Et enfin, pour en donner qu'un tout petit exemple, ces choses-là, chez les Daces, c'est-à-dire les ancêtres des Roumains, on s'est interrogé sur le sens de leur nom, les Daces. Et on suppose que Das vient de Daoï, qui voudrait dire les loups en phrygien. Donc les Daces eux-mêmes descendraient de loups. Et il y a un petit article de Mircea Eliade très intéressant à ce sujet, les Daces et les loups, qui se termine de cette manière, que je trouve très amusante. Il est significatif que les Daces, c'est-à-dire les futurs Roumains, se soient laissés vaincre par deux peuples exclusivement, les Romains d'abord, qui étaient donc fils, si on peut dire, de la louve, du dieu Mars, loup, et par les Tartares, par les Mongols, qui eux-mêmes descendaient d'un loup mythique. Donc, on peut parler du vampire, bien sûr, mais enfin, avant le vampire, il y a l'homme-loup, il y a l'homme-chien. On n'entrera pas vraiment dans le détail ici, parce que c'est une chose très compliquée. Mais ils existent tout à fait en dehors de l'ère chrétienne. Ils existent également en Amérique du Nord, chez les Indiens d'Amérique du Nord. Il y a une quantité de mythes, sinon de vampires, du moins en tout cas d'hommes-loups. Et ces deux mythes sont très proches. Et enfin, on trouve également dans une ère non chrétienne, en islam, des ghouls, hein, les gorles islamiques, qui sont des êtres femelles et qui sucent le sang, qui, dans les cimetières, dévorent des cadavres. Et il y a aussi ceci qu'il faut souligner, c'est que cette région des Carpates et des Balkans est une région extrêmement conservatrice. Peut-être justement par le fait qu'elle est région de montagne, région très cloisonnée. Et alors pourquoi est-ce précisément dans cette région que ça s'est le mieux conservé? C'est difficile à dire.
De la Bulgarie, on a très peu de documents très anciens. En général, les documents médiévaux n'en parlent pas. Ils représentent la culture officielle, enfin la culture des États orthodoxes. Et ça, c'est pas quelque chose d'admis. Enfin, c'est très difficile d'y répondre. On constate une zone en Europe qui s'étend un peu vers l'Eurasie, enfin vers dans l'Union soviétique, où on a observé la croyance aux vampires. Du reste, c'est par là que la croyance littéraire, enfin que à l'époque romantique, sont parvenues en Europe occidentale. Elle va jusqu'aux îles grecques, elle allait en tout cas au XVIIe siècle par exemple jusqu'aux îles grecques, et elle était très ancrée dans tous les peuples balkaniques, enfin dans toutes les ethnies balkaniques. Évidemment, les revenants, c'est quelque chose, je crois, de à peu près universel. Ce qui est particulier dans le cadre de la théorie du vampirisme, c'est qu'il s'agit d'une construction qui met en jeu, en quelque sorte, une espèce d'inversion de la parenté. Le vampire, en général, c'est un proche, c'est-à-dire quelqu'un du même lignage. Plus le mort qui risque de revenir est proche dans la parenté, plus il est dangereux et plus il est méchant, plus il est mauvais, pour ses proches. Et pour les jeunes de ses proches. Alors là, on voit quelque chose de très curieux, c'est une opposition entre la réalité, enfin, une certaine réalité de la parenté, au niveau de ce discours patrilinéaire qui est marqué ici négativement, puisque le danger vient, par exemple, du grand-père qui risque de venir manger gloutonnement ses petits-enfants en buvant leur sang, en franchissant un certain nombre de barrières et de façon nocturne. Et la femme, qui elle est une étrangère au lignage, mais qui permet de faire un retour positif, un retour dans le sens du vital, en quelque sorte. C'est-à-dire que le parent mort, le parent le plus proche, comme j'ai déjà dit, devient un être cannibale, et alors là c'est quand même très grave, c'est en quelque sorte, pour paraphraser Lévi-Strauss, ce serait du cru, le mort ce serait l'amateur de cru, comme opposé à la culture, au cuir.
« Vierge sacrée, dit Aînée à la Sibylle, apprenez-moi d'où vient cette foule sur le bord du fleuve. Que demandent ces âmes ? Et par quelle différence celles-ci sont-elles forcées de s'éloigner de la rive, tandis que celles-là fendent de la rame les eaux livides ? Fils d'Anchise, vrai sang des dieux, répondit la prêtresse, cette foule que vous voyez, ce sont les malheureux, les indigents demeurés sans sépulture. Ce nocher, c'est Caron. Il fait voguer sur ses flots ceux dont les cendres reposent dans un tombeau, car il ne lui est pas permis de les passer sur ce fleuve redoutable avant que leur corps ne soit auparavant restitué à la terre. Sans ce dernier honneur, toujours errantes, ces âmes voltigent un siècle autour de ces rives. Et ce n'est qu'après ce long espace de temps qu'admise enfin dans la barque, elle revoit l'onde fatale. Virgile, l'Énéide, chant 5.
Le vampirisme, malheureusement, a été relativement peu étudié parce que les ethnographes locaux qui ont été témoins de pratiques encore vivantes, qui ont maintenant disparu, en avaient honte et taisaient, en quelque sorte, quand ils faisaient les descriptions, tous les détails enfin, qui peuvent être importants de ces pratiques tournant autour de la mort. Et par ailleurs... le fait que c'est devenu très rapidement, en Europe occidentale, une croyance littéraire fait qu'on ne la prend pas au sérieux. Et chez beaucoup d'anthropologues, on aura un sourire si vous leur dites « ben moi je m'intéresse au vampirisme ». Enfin, ça m'est arrivé et ça paraît pas très sérieux. On voit Dracula, n'est-ce pas ? C'est ça. Et ben c'est pas ça. Sur le fond, c'est quand même une représentation des rapports... qui explique beaucoup de pratiques rituelles tenant à la mort.
Dans la tradition bulgare, on ne peut isoler le vampire des représentations relatives à la femme, privée de tout pouvoir réel par une société farouchement patrilinéaire. Mais on lui prête en compensation des pouvoirs symboliques, souvent exprimés dans les rituels de noces. Assimilée à l'hirondelle, elle possède le don de réaliser magiquement certains passages, comme la traversée du Danube, qui sont des passages vers la vie.
Il est certain que... à premier regard, le vampirisme, qu'il soit formulé sous forme de conte, un récit, dans certains chants, dans certains textes à caractère légendaire, le vampire, là aussi, apparaît très souvent accouplé, si l'on peut dire, en tout cas c'est comme désirant s'accoupler, avec une fille et avec une jeune femme. Je vais analyser, enfin un petit peu, commencer à analyser un conte qui est très intéressant. C'est le conte de Mara la Blanche, qui représente la résolution d'une épreuve. Un homme s'est remarié, ce qui n'est pas bien vu, enfin. Et sa femme, lui, avait une fille de sa première femme, et sa femme a une fille. Et alors la marâtre, n'est-ce pas, déteste, elle hait sa belle-fille. Et elle l'envoie passer la nuit dans un moulin, en général dans les Balkans ce sont des moulins à eau, donc un moulin posé sur une rivière, avec une petite galette, enfin une sorte de pain. Enfin, bon. Et trois animaux qu'elle prend avec elle, un chat, un chien et un coq. Et la jeune fille, et elle dit, bon je vais l'envoyer là-bas parce que pendant la nuit il y a le vampire qui viendra et il la mangera. En quelque sorte, la belle-mère offre une nourriture, n'est-ce pas, humaine à ce vampire. Alors la jeune fille s'installe dans le vieux moulin et arrive l'heure où, où elle a faim, elle sort sa galette, elle commence à manger. À ce moment-là, les animaux viennent la solliciter, elle partage sa galette avec les trois animaux. Et sur le coup de minuit, le vampire frappe à la porte et il dit « Ouvre-moi, ouvre-moi, Blanche Mara, Blanche c'est-à-dire belle, enfin blancheur est un représentant la beauté, je veux te manger, c'est-à-dire je veux te consommer. » Alors évidemment, là, il y a tout le... La consommation, enfin c'est aussi la consommation sexuelle, enfin bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans la version que j'ai recueillie, ce vampire, on ne l'appelle pas, on dit c'est un vampire, on l'appelle grand-père, dedo. Dans la terminologie de parenté, c'est en même temps un terme référentiel, c'est le père de mon père ou le père de ma mère, mais c'est aussi un terme d'adresse pour les personnes proches qui ne sont pas de votre famille, mais qui habitent, qui sont voisins par exemple, et à qui on doit le respect parce qu'ils sont plus âgés que vous, parce qu'ils appartiennent à la catégorie des vieillards. Alors, donc ce grand-père vient manger donc sa petite fille, et alors elle ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, les animaux l'aident. Et ils disent, bon, tu lui dis, va me chercher un coffre de dot, et à ce moment-là, je t'ouvrirai la porte du moulin. Et le vampire, bon, se déplace très facilement et il lui ramène un coffre de dot avec des ornements et ça dure enfin deux ou trois fois et à la fin, l'aube vient, les premiers coqs se mettent à chanter et le vampire s'enfuit et la jeune fille retourne chez elle avec un coffre de dot, c'est-à-dire pouvant se marier. Alors la marâtre crève de jalousie, elle envoie sa fille à elle, toujours avec une galette, avec les trois animaux, le petit chat, le petit chien et le petit coq, quand arrive l'heure de souper, le soir, dans le vieux moulin, la jeune fille refuse de partager sa galette avec les animaux. Quand le vampire arrive, il frappe à la porte, « Ouvre-moi, Blanche Mara, parce qu'elle a le même nom. » Je vais te manger, chers animaux, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas quoi faire, comment répondre. Ils lui répondent, mais comme tu nous as répondu non à nous, nous on ne te répondra pas. Et à ce moment-là, le vampire peut franchir la porte, il vient et il déchire cette jeune fille qui n'a pas su partager la nourriture. Alors, évidemment, tous les éléments sont importants. Je parlerai simplement ici de cette opposition, n'est-ce pas, d'une part, de ce contact, de cette conjonction sur une frontière, là encore une espèce de frontière naturelle qui sert en même temps pendant le jour de moyen technologique, puisque c'est pour transformer la céréale brute en farine qui permet de faire le pain qui est l'aliment de base, avec la femme qui est l'agent technique essentiel de toutes les pratiques culinaires, qui est sur le marché matrimonial, et qui va venir se faire dévorer, comme en quelque sorte une viande pour cannibale, par son grand-père. Alors, c'est quand même quelque chose d'important. Et ce grand-père, si elle sait lui répondre, réponse supposant un échange linguistique, un échange de discours avec des animaux, qui ne parlent pas théoriquement, enfin, naturellement, échange linguistique donc rendu possible par un partage de nourriture, à ce moment-là, le grand-père lui transmet quelque chose, lui transmet le moyen de se marier, c'est-à-dire une dot vestimentaire, textile, etc. Donc on pourrait dire, dans un premier temps, la morale du conte, c'est il faut que la jeune fille partage pour se marier et pour ne pas, en quelque sorte, tomber dans une espèce d'inceste. Enfin, là, il y a un côté, une allusion manifeste à l'inceste. Alors, la fille, donc, si elle refuse d'échanger, elle tombe, en quelque sorte, dans la mort. Enfin, elle devient, au lieu d'être une productrice de nourriture cuite et une productrice d'enfants, elle devient un produit culinaire, mais un produit cannibale. Et du côté, en quelque sorte, de sa parenté, du côté de la parenté, c'est-à-dire c'est le grand-père. Alors là, c'est quelque chose d'ambigu. Alors on peut penser évidemment que cette formule du conte fait allusion au fait qu'un groupe doit échanger, doit accepter de ne pas garder ses femmes chez soi, car garder ses femmes chez soi, c'est l'équivalent de l'inceste. On peut penser aussi à cette possibilité donc qu'a la femme de passer à travers un certain nombre d'espaces disjoints, espaces disjoints qui peuvent ne plus l'être selon une alternance temporelle, cette fois-ci, c'est-à-dire le lieu des morts et le lieu des vivants. Et si les morts, pendant la nuit, reviennent chez les vivants, à ce moment-là, les instruments les plus culturels, comme le moulin à eau, deviennent des lieux dangereux, des lieux de la mort. Et c'est la femme qui donne les moyens, parce qu'elle est une productrice technologique, de résister à ce retour, en quelque sorte, des morts chez les vivants. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, là-dedans, c'est que ces morts, c'est un peu les ancêtres. Ces morts, c'est quand même les gens dont on se réclame quand on dit « j'appartiens à tel soy ». On appelle ça en général « soy », c'est un mot turc qui signifie en gros « lignage ». C'est passé en grec, c'est passé dans beaucoup de langues balkaniques. On dit « moi mon soy », nous notre soy. Et même les gens maintenant, quand ils parlent, on dit « voilà, j'ai telle caractéristique psychologique parce que mon soy est comme ça ». Eh bien, ce soy, c'est quand même quelque chose de très ambivalent, enfin de très ambigu. Et la femme étant une étrangère par nature, c'est pour ça qu'elle, en quelque sorte, elle culturalise si elle répond bien, c'est-à-dire si elle partage, elle culturalise des espaces qui sinon sont considérés comme hostiles. Enfin, en tout cas, où il y a une potentialité de violence.
Les figurines de courtisanes ou d'esclaves que les Égyptiens plaçaient au fond des tombes avaient pour fonction de mettre un obstacle entre le mort et les jeunes femmes qui vont puiser de l'eau sur les bords du Nil.
L'Église, en ce qui concerne les morts, qui sont des gens dangereux, qui sont des gens dont on a quelque chose à craindre, il faut faire bien attention, c'est qu'un enterrement mal fait risque d'avoir pour conséquence la vampirisation du mort, ce qui est donc quelque chose de très embêtant. L'Église fournit des magies puissantes. Alors, c'était une explication que m'avait donnée une informatrice. Hein, je parlais du vampirisme, c'était dans une zone où c'est la croyance est encore très forte. Et je lui demandais, mais enfin maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de vampires? Alors, on m'a dit maintenant, non, il y a quand même de moins en moins de vampires. Enfin, quand même, c'est très rare, parce que maintenant, les prêtres sont plus consciencieux. C'est-à-dire que les textes qu'ils ont à lire au moment de l'enterrement, ils les lisent entièrement, ils font pas bon, et ils font bien leur travail. Enfin, ceci montre que là, en ce qui concerne le mort, l'Église a fourni des matériaux magiques qui permettent de se défendre contre ce retour du mort. Ce retour donc du vampire, si vous voulez. Et je crois que c'est pour ça que l'attachement au rituel religieux, s'exprimant dans le matériau, dans les signifiants, si vous voulez, que fournit l'Église, est resté encore beaucoup plus fort. Il y a des cas, il suffit de voir les cimetières. Bon, il y a deux sortes de tombes maintenant, les tombes, disons, chrétiennes et les tombes athées. Tombe chrétienne, il y a une croix dessus, sur la pierre tombale ou sur le morceau de bois. Les tombes athées, en général, on met une petite pyramide en pierre ou en bois surmontée d'une étoile rouge. Et on voit très souvent, devant une telle tombe athée, une petite boîte qui a la forme d'une petite maison, si vous voulez, surmontée d'une croix. C'est une petite boîte en fer blanc, à l'intérieur de laquelle, il y a une petite vitre, à l'intérieur de laquelle on met un candilo, c'est-à-dire une veilleuse, qui c'est ce qu'on met devant les icônes. Et les parents qui, eux, bon, étant donné qu'ils ont quand même peur que leur chair mort, leur chair disparue, revienne, on met quand même la petite boîte avec la croix devant la tombe athée. Enfin, ça, c'est très curieux, c'est très fréquent. C'est quelque chose dans les cimetières qu'on observe encore maintenant très fréquemment.
Entre les énormes nuages noirs apparaissait parfois un rayon de lune qui éclairait tout le paysage. Je pus de la sorte me rendre compte que j'étais parvenu au bord de ce qui ressemblait vraiment à une forêt d'ifs et de cyprès. Comme la neige avait cessé de tomber, je quittai mon abri pour aller voir de plus près. Je me dis que peut-être je trouverai là une maison, fût-elle en ruine, qui me serait un refuge plus sûr. Longeant la lisière du bois, je m'aperçus que j'en étais séparé par un mur bas. Mais un peu plus loin, j'y trouvais une brèche. À cet endroit, la forêt de cyprès s'ouvrait en deux rangées parallèles pour former une allée conduisant à une masse carrée qui devait être un bâtiment. Mais au moment précis où je l'aperçus, des nuages voilèrent la lune, et c'est dans l'obscurité complète que je remontai l'allée. Je frissonnais de froid tout en marchant, mais un refuge m'attendait et cet espoir guidait mes pas. En réalité, j'avançais tel un aveugle. Je m'arrêtais, étonné du silence soudain. L'orage était passé, et en sympathie, eût-on dit, avec le calme de la nature, mon cœur semblait cesser de battre. Cela ne dura qu'un instant, car la lune surgit à nouveau d'entre les nuages, et je vis que j'étais dans un cimetière, et que le bâtiment carré au bout de l'allée était un grand tombeau de marbre, blanc comme la neige qui le recouvrait presque entièrement et recouvrait le cimetière tout entier. Le clair de lune amena un nouveau grondement de l'orage qui menaçait de recommencer, et en même temps, j'entendis les hurlements sourds mais prolongés de loups ou de chiens. Terriblement impressionné, je sentais le froid me transpercer peu à peu, et me semblait-il jusqu'au cœur même. Alors, tandis que la lune éclairait encore le tombeau de marbre, l'orage, avec une violence accrue, parut revenir sur ses pas. Poussé par une sorte de fascination, j'approchai de ce mausolée qui se dressait là, seul, assez étrangement. Je le contournai, et je lus sur la porte de style dorique cette inscription en allemand. « Comtesse Dollingen de Graz, Styrie. Elle a cherché et trouvé la mort. 1801. » Au-dessus du tombeau, apparemment fiché dans le marbre, le monument funéraire était composé de plusieurs blocs de marbre. On voyait un long pieu en fer. Revenu de l'autre côté, je déchiffrais ces mots, gravés en caractères russes. Les morts vont vite.
Bon, c'est aussi bête que cela. J'étais avec des amis roumains et nous circulions en voiture. Nous étions quatre. Et nous n'avions fait que plaisanter les deux dames sur le fait que nous allions voir les vampires. Et nous montions de la ville où nous avions mangé à Bistritza. C'est-à-dire l'endroit où s'arrête Jonathan Harker, dans cette petite ville de Bistritza. Il s'arrête là, il mange, et là, il prend la diligence, si vous vous souvenez de l'histoire de Bram Stoker, et il monte vers le col du Birgau, du Borgo, dans le nom de... Il s'appelle toujours Birgau. Il monte en diligence, après de grandes difficultés, puisque personne ne veut l'accompagner, puisque c'est là à cause des vampires. Il s'entête, et il s'arrête à un endroit précis, au col, et là vient l'attendre la patache ou la petite voiture du comte Dracula. Et bon, plaisanterie en tout genre, les dames n'étaient absolument pas impressionnées, il faut bien le dire, par nos mauvaises plaisanteries. C'était ma femme qui conduisait, et nous nous sommes arrêtés à un endroit pour voir un pin qu'on appelle le chandelier parce qu'il a 7 branches. Un énorme sapin très célèbre qui est très très ancien et qui est une curiosité locale. Nous arrêtons là, c'est-à-dire peu avant le col du Birgau, peut-être 10 km avant. Et à ce moment-là, je décide de la relayer et de conduire à mon tour. Et nous conduisons et je puis vous assurer que je ne conduisais pas vite. D'abord parce qu'on montait, mais ça monte sec. En plus, les routes ne sont pas terribles. La nuit commençait à tomber. J'avais dû mettre mes phares au moins veilleuses. Mais la circulation sur cette route était à peu près nulle. Il n'y avait aucune chance qu'on rencontre personne.
Cependant, la route se fit bientôt plus régulière et j'eus alors l'impression que nous volions, bel et bien. Elle devenait aussi plus étroite. Les montagnes d'un côté et de l'autre se rapprochaient et semblaient, à vrai dire, nous menacer. Nous traversions le col de Borgo. Tour à tour, mes compagnons de voyage me firent des présents. Gousses d'ail, roses sauvages séchées. Et je vis parfaitement qu'il n'était pas question de les refuser. Certes, ces cadeaux étaient tous plus bizarres les uns que les autres, mais ils me les offrirent avec une simplicité vraiment touchante, en répétant ces gestes mystérieux qu'avaient fait les gens rassemblés devant l'hôtel de Bistritz. Le signe de la croix et les deux doigts tendus pour me protéger contre le mauvais œil. Le conducteur se pencha en avant. Sur les deux bancs de la diligence, les occupants tendaient le cou pour examiner le rebord extérieur. De toute évidence, ils s'attendaient à voir surgir quelque chose dans la nuit. Je leur demandai de quoi il s'agissait, mais aucun ne voulut me donner la moindre explication. Cette vive curiosité persista un bon moment. Enfin, nous parvâmes sur le versant est du col.
À un certain moment, alors que je conduisais comme ça, la route s'est arrêtée brutalement et ma voiture a continué. J'ai sauté avec la voiture. Dénivellation, c'était peut-être un mètre, vous savez, pas plus. Il ne s'agissait pas d'un ravin ou quoi, c'est seulement la route qu'ils étaient en train de creuser pour construire une véritable route. Et étant creusée, la route s'arrêtait brutalement, ma voiture a sauté et retombé sur ses quatre roues, sans dommage me semblait-il. Et nous avons pu tant bien que mal continuer, et la voiture continuait. Et au bout de moins d'un kilomètre, j'ai vu mon voyant qui s'allumait et j'ai su qu'il n'y avait plus d'huile dans le moteur. Nous avions tout simplement défoncé la calandre dessous. Et le réservoir d'essence, en plus, sur les pierres, c'était de la grosse blocaille pointue. On a défoncé tout ce qu'il y avait sous la voiture. C'est bête, n'est-ce pas? Ceci, très précisément, en haut du col du Birgau, où ils avaient arrêté les travaux qu'ils devaient continuer plus tard. Bon, déjà, on trouvait ça de pas gai. Mais en plus, perdu dans les sapins, à présent, il faisait noir, n'est-ce pas? Aucune circulation, rien. Nous voilà avec une voiture en panne. Pas de village, bien entendu. On est en pleine Transylvanie. C'était simplement quelque chose de pas gai. Jusque-là, tout allait relativement bien. Nerveusement, je veux dire. Bon. Finalement, au bout d'un assez long temps, passe une voiture. Ça paraît une plaisanterie, mais cette voiture contenait un docteur.
Des nuages noirs s'amoncelaient. Le temps était lourd, comme si un orage allait éclater. On eût dit que, des deux côtés de la montagne, l'atmosphère était différente et que nous étions maintenant dans une région dangereuse. Pour moi, je cherchais des yeux la voiture qui devait me conduire chez le comte. Je m'attendais d'un moment à l'autre à apercevoir ses lumières. Mais la nuit demeurait un noir d'encre. Seuls les rayons de nos lampes cahotantes projetaient des lueurs dans lesquelles s'élevait l'haleine fumante des chevaux. Elle nous permettait de distinguer la route blanche devant nous, mais nulle trace d'autre voiture que la nôtre. Mes compagnons, avec un soupir de soulagement, reprirent une position plus confortable. Je le ressentis comme une raillerie. Ils se moquaient de mon propre désappointement. Je réfléchissais à ce que j'allais faire en cette situation embarrassante quand le conducteur consulta sa montre et dit aux autres voyageurs quelques mots qu'il me fut impossible de saisir, mais j'en devinais la signification. Une heure de retard. Puis, se tournant vers moi, il me conseilla dans un allemand encore plus mauvais que le mien. « Aucune voiture en vue. C'est que l'on n'attend pas, monsieur. Continuez le voyage avec nous jusqu'en Bukovine. » Et vous reviendrez ici demain ou après-demain, cela vaudra mieux. » Tandis qu'il parlait, les chevaux se mirent à hennir et à ruer, et l'homme les maîtrisa à grand-peine. Puis, tandis que tous mes voisins poussaient des cris d'effroi et se signaient, une calèche attelée de quatre chevaux arriva derrière nous, nous dépassa presque, mais s'arrêta à côté de la diligence. À la lueur de nos lampes, je vis que les chevaux étaient splendides, d'un noir de charbon. Celui qui les conduisait était un homme de haute taille, doté d'une longue barbe brune et coiffé d'un large chapeau noir qui nous cachait son visage. Au moment même où il s'adressait à notre conducteur, je distinguais pourtant ses yeux, si brillants que dans la clarté des lampes, ils semblaient rouges. « Vous êtes bientôt ce soir, mon ami, » lui dit-il. L'autre répondit sur un ton mal assuré, « Mais ce monsieur qui est anglais était pressé. » « Voilà pourquoi, je suppose, » répliqua le nouveau venu, « vous vouliez l'emmener jusqu'en Bukovine ?»« Non, mon ami, impossible de me tromper. J'en sais trop, et mes chevaux sont rapides. » Il souriait en parlant, mais l'expression de son visage était dure. Il était maintenant tout près de la voiture. On voyait ses lèvres très rouges, ses dents pointues, blanches comme de l'ivoire. Un voyageur murmura à l'oreille de son voisin le vers fameux de Léonore de Bürger. « Denn die Toten reiten schnell. » »« Car les morts vont vite. »
C'est surtout, je crois, au XIXe siècle que le mythe se transforme, en tout cas, qu'il prend forme d'un point de vue littéraire, surtout, littéraire-artistique, qu'il devient vraiment un thème d'inspiration. Il y a bien sûr la très célèbre Carmilla de Sheridan Le Fanu, il y a surtout le Dracula de Bram Stoker. Avant le Dracula de Bram Stoker, il y avait eu d'autres choses bien sûr. Stoker n'est pas un innovateur à 100% dans ce domaine-là. Du côté des Français, il y a eu beaucoup de choses qui sont connexes également au mythe du vampire. Il y a eu par exemple La morte amoureuse de Gautier. Il y a eu également Edgar Poe, hein, et toutes ces histoires de cadavres animés, de mortes qui reviennent. Et il y a donc une atmosphère. Il y a une atmosphère, je crois qu'il y a la fascination morbide de la mort, la fascination morbide du cadavre. On a beaucoup parlé, il y a quelque temps, de ce thème en peinture, par exemple. La mort qui saisit la jeune fille, hein. Une jeune fille très pulpeuse, très blanche, enfin très séduisante, et qui pousse des cris épouvantables, et qui est saisie à bras-le-corps par un cadavre en décomposition. C'est un thème esthétique. Stoker, à mon avis, est très différent de Poe, parce qu'il y a chez Poe une inquiétude vraiment métaphysique, enfin une inquiétude vitale, profonde. Chez Stoker, Stoker est véritablement un excellent romancier, et c'est en même temps un très bon travailleur. Il s'est très bien renseigné sur les légendes roumaines. Il a fait des études un peu historiques, en tout cas fondées historiquement. Et il a repris ses traditions roumaines. Il en a fait un roman, il a un petit peu modifié les choses. Alors on ne peut pas vraiment dire qu'il fait une synthèse, c'est pas du tout ça en réalité. Mais je crois que malgré tout, c'est de lui qu'il faut parler pour l'instant, parce que c'est lui qui, quand même, cristallise le mythe du vampire tel qu'il va être utilisé par le XXe siècle. Alors, le Dracula de Bram Stoker paraît en 1897, c'est-à-dire tout à fait à la fin du XIXe siècle, et vraiment à la charnière du XXe. Et je ne peux que conseiller de lire ce roman, qui est un merveilleux roman, qui est très bien écrit. Et qui est vraiment captivant, qui est captivant pas du tout dans l'ordre du morbide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais captivant parce que c'est très bien fait. Et je crois qu'on découvre là un Dracula neuf, et pas du tout cette espèce de Dracula, soit d'opérette, soit dégoulinant d'hémoglobine, qu'on voit dans les films.
Peu de temps se passa avant que les projecteurs ne découvrent, à quelque distance vers le large, une goélette, toute voile déployée, la même probablement que l'on avait remarquée plus tôt dans la soirée. Le vent, à ce moment-là, avait tourné à l'est, et les gens de mer qui se trouvaient sur la falaise frémirent en comprenant le terrible danger que le bateau courait. Entre la goélette et le port s'étendait un long banc de rochers sur lequel tant de bateaux déjà s'étaient brisés, et comme le vent soufflait maintenant de l'est, il paraissait réellement impossible qu'elle parvînt à entrer dans le port. C'était l'heure de la marée haute, mais les vagues sauvages montaient à une telle hauteur que lorsqu'elles se creusaient, on voyait presque le fond. Cependant, la goélette avançait, toute voile dehors, et si rapidement que, comme le dit un vieux loup de mer, elle devait évidemment arriver quelque part, fût-ce en enfer. Poussées vers le rivage, s'élevèrent de nouvelles murailles de brouillard plus épaisses que les précédentes, et qui semblaient vous séparer du monde entier, et vous laisser seulement le sens de l'ouïe. En effet, le mugissement de la tempête, les coups de tonnerre et le fracas des vagues traversaient l'écran formidable et tout imprégné d'eau pour venir jusqu'à vous et vous assourdir. Les rayons du projecteur restaient fixés sur l'entrée du port, exactement sur le môle est où l'on croyait que se produirait le choc, et chacun retenait son souffle. Soudain, le vent tourna au nord-est et dissipa le brouillard. Alors, chose presque incroyable, la goélette étrangère passa entre les deux môles en sautant de vague en vague dans sa course rapide et vint se mettre à l'abri dans le port. Les rayons du projecteur ne la quittaient pas. Et quelle ne fut pas l'horreur ressentie par la foule quand elle aperçut, attachée au gouvernail, un cadavre dont la tête pendait et qui vacillait d'un côté puis de l'autre selon les mouvements du bateau. On ne voyait sur le pont aucune autre forme humaine. Un grand cri de terreur stupéfaite s'éleva quand les gens comprirent que la goélette était entrée dans le port comme par miracle. La main d'un mort tenait le gouvernail. Cependant, tout s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. La goélette ne s'arrêta pas, mais continua sa course plus avant dans le port, pour aller s'échouer sur un tas de sable et de gravier accumulés par les marées montantes et les tempêtes dans le coin sud-est, près de la jetée, qui se terminait sous la falaise est, jetée que l'on appelle dans le pays la Tate Hill Pier. Il y eut évidemment un choc considérable quand le bateau s'échoua sur le tas de sable. Les mâts, les cordages cédèrent, et chose inattendue, à l'instant même où la proue touchait le sable, un énorme chien surgit de la cale, sauta sur le pont, comme propulsé par le choc, puis du pont se précipita sur le rivage. Se dirigeant à toute vitesse vers le haut de la falaise où se trouve le cimetière, falaise si escarpée que certaines pierres tombales restent en partie suspendues dans le vide, là où la roche s'est peu à peu effritée, il disparut dans la nuit qui paraissait plus noire encore, au-delà des rayons du projecteur.
Celui qui a servi de modèle à Dracula s'appelait en réalité Vlad Tsepeș. C'était un grand seigneur roumain qui n'a pas été constamment cet individu cruel qui lui a mérité ce petit surnom de Draculai, qui en roumain signifie petit diable. Dracul, c'est le diable. C'est à la fois le dragon et le diable. Et le dragon venait de ce qu'il avait ça sur ses armoiries, je crois bien me souvenir. Vous savez, je n'ai plus ça très frais à la mémoire. Mais enfin, il y a de ça. Mais c'est en même temps petit diable. Cet individu n'était pas entièrement dénué de qualité, puisqu'il a fait énormément quand même pour son pays. Il a repoussé les envahisseurs. Vous savez que la Roumanie a été l'endroit où s'est avancé le plus vers les Slaves, l'Empire ottoman. Et ce Vlad Tsepeș fait partie de ceux qui ont le plus résisté, avec d'autres héros nationaux qu'ils ont, Stéphane Tchelmar et d'autres personnages comme cela. Donc il est pour eux d'abord un héros national. Ce n'est que plus récemment que l'intérêt de l'Occident pour la mythologie de Dracula venant de Bram Stoker, et avec la célébrité que lui ont donné par la suite les films de Terence Fisher, ils se sont penchés là-dessus. Mais je puis vous dire que jusqu'à une période assez récente, les Roumains prenaient très mal le fait que leur Vlad Tsepeș soit devenu un monstre. On l'appelait Vlad l'Empaleur, parce que pour punir, à la façon des Turcs, il empalait les gens. Il y a des images qui se trouvent reproduites dans les livres roumains. Ce sont des gravures sur bois, où on montre Vlad Tsepeș prenant son déjeuner entouré de pales où sont empalés des gens, où il y a des décapités, tout cela, seulement afin de montrer sa puissance, sa cruauté, afin de montrer qu'il ne reculait devant rien et qu'il pouvait être aussi terrible que les Turcs. Les Turcs qui, lorsqu'ils se se prenait à faire des représailles était terrible. Oui, c'était un seigneur de Transylvanie. Là, les Turcs n'allaient pas. Ils allaient en Valachie. Là, ils étaient installés. Donc, il y avait là quelque chose, un heurt, un front. Il y avait les montagnes, tout simplement, qui servaient de barrage.
Dracula apparaît chez Stoker dès le début comme un être isolé, bien sûr, quelqu'un qui vit depuis des siècles et qui, au courant de ces siècles, a, pour ainsi dire, s'est formé. Il s'est formé à son état de mort-vivant ou de non-mort. Il s'est développé. Son cerveau, qui était déjà, enfin, sa personnalité, qui était déjà extrêmement forte à l'époque où il a commencé à exister, c'est-à-dire au XVe siècle, a continué à se développer et il est maintenant à un stade presque terminal de son accomplissement personnel. Et il va quitter la Roumanie, il va quitter ce pays parce que ce pays est presque désert, enfin ces montagnes, les montagnes où il habite sont presque désertes et il ne peut plus rester là-bas, il va aller dans un pays très peuplé où il y a beaucoup de monde, beaucoup de sang frais, l'Angleterre. Alors, le jeune Jonathan Harker arrive là-bas, bien sûr, très surpris de découvrir ce personnage étrange, mais enfin, en anglais, flegmatique et plutôt positiviste, il se dit, pas lieu de s'inquiéter. En fait, son aventure devient très vite extrêmement dangereuse, très inquiétante. Il fait une expérience en particulier dans le château la nuit, où il est assailli par des femmes vampires. Et cette scène est très curieuse, très étrange. C'est une espèce de brouillard lumineux qui se concentre devant lui, pour commencer. Et c'est seulement après qu'il aperçoit que ce brouillard lumineux se concentre en forme féminine. Et survient, il est sur le point d'être mordu, et survient Dracula, qui écarte d'un geste extrêmement violent ces femmes, et qui leur dit « Celui-là n'est pas pour vous. Laissez-le-moi. » Alors les femmes ricanent et lui disent « Comment il est pour toi ? Mais tu n'as jamais su aimer. » Et il répond « Si, moi aussi, je peux aimer. » Et c'est le seul moment où nous verrons, enfin cette phrase très, très étrange, enfin du personnage Dracula, qui est dans le fond solitaire, avide non seulement de sang et de vie, mais également avide d'une relation. Et avec Jonathan, en somme, c'est une relation, aussi étrange que ça puisse paraître. Il épargnera Jonathan. Il ne va pas le vider de son sang. Jonathan ne sera pas une victime de Dracula. Il pourra s'échapper du château. Il s'échappera fou. Et il va rester des semaines et des semaines dans un asile. Enfin, on va le recueillir. Des religieuses le recueillent. Mais il n'empêche qu'il n'est pas victime de Dracula. Il revient. Et Dracula, grâce à Jonathan d'ailleurs, va pouvoir parvenir en Angleterre. Et alors là, il y a donc le début de ces aventures anglaises, qui sont absolument admirables. La première victime, la première victime connue, célèbre, de Dracula va être la jeune Lucy. Lucy qui est l'amie intime de Mina, Mina, femme de Jonathan. Et Lucy, très belle, très pure, évidemment, comme Mina d'ailleurs, les personnages féminins dans ce Dracula de Stoker sont extrêmement purs, très très moraux, très blanc. Cette Mina, donc, va avoir une mort lente. Et très vite, on va se rendre compte, un vieux docteur flamand, Van Helsing, se rendra compte qu'elle est vampirisée. Elle meurt, mais elle meurt vampirisée, c'est-à-dire qu'elle meurt impure, elle-même vampire. Elle-même vampire, et elle va revenir. Elle va revenir dans les premiers jours de sa mort. On va voir une ombre blanche. Alors, c'est là le mythe de la Dame Blanche, le thème de la Dame Blanche qui revient. Elle revient, elle hante des cimetières, et surtout des enfants disparaissent. Alors, le vieux docteur Van Helsing va essayer de remédier à cela. Il convoque le fiancé, donc l'être le plus proche de Lucy, et c'est à lui qu'il va confier l'horrible travail, enfin celui de rendre le vampire à la mort. Celui de tuer, en somme, Lucy, qui est déjà morte, mais qui revient. Et ça, c'est un passage très beau. La dernière apparition de Lucy, devant son tombeau, et en même temps la rédemption de Lucie par l'entremise du sacrifice de son amant, enfin de son très cher fiancé.
La silhouette blanche se remit à avancer. Elle fut bientôt assez près de nous pour que nous la distinguions clairement. Et d'ailleurs, de nouveaux nuages n'avaient pas obscurci la lune. Je sentis mon cœur se glacer. Et au même moment, j'entendis le cri d'horreur étouffé d'Arthur. Nous venions de reconnaître les traits de Lucie Westenra. Lucie Westenra, mais à quel point changée ? La douceur que nous lui avions connue était remplacée par une expression dure et cruelle. Et au lieu de la pureté, son visage était marqué de voluptueux désirs. Van Helsing quitta sa cachette, et faisant de même, nous avançâmes jusqu'à la porte du tombeau devant laquelle nous nous rangeâmes tous les quatre. Van Helsing éleva sa lanterne, dont il ouvrit la petite porte, et dont la lumière éclaira le visage de Lucie. Ses lèvres étaient écarlates, toutes humides de sang frais, dont un filet avait coulé sur son menton et souillé son vêtement immaculé de morte. Faut-il le dire, à nouveau l'horreur nous fit frémir. À la lumière vacillante de la lanterne, je sus que même les nerfs d'acier de Van Helsing avaient cédé. Arthur se trouvait à côté de moi, et si je ne lui avais pas saisi le bras, il serait tombé. Quand Lucie... J'appelle Lucie cette chose qui était devant nous, puisqu'elle avait la forme de Lucie. Nous vit. Elle recula en laissant échapper un grognement furieux, tel un chat pris à l'improviste. Puis ses yeux se posèrent sur nous, l'un après l'autre. C'étaient les yeux de Lucie quant à la forme et à la couleur. Mais les yeux de Lucie, impurs et brillants d'un feu infernal, au lieu de ces douces et candides prunelles que nous avions tous tant aimées. À l'instant, ce qui restait de mon amour se changea en un sentiment fait de haine et d'exécration. Si on avait dû la tuer alors, j'aurais voulu le faire moi-même, et avec quel cruel plaisir. Tandis qu'elle continuait à nous regarder de ses yeux flamboyants et pervers, son visage rayonna d'un sourire voluptueux. Seigneur, que c'était odieux à voir.
À peine Lucie est-elle devenue vampire, elle se transforme en une espèce d'animal. Le mot de chien est là, elle gronde comme un animal. Et en même temps, un animal voluptueux. Ce sont les sens qui prennent le dessus. Alors que Lucie, aussi bien que Mina, sont des êtres chastes, tous les deux. De même d'ailleurs que les hommes de ce... Ce sont tous des êtres très moraux, très purs, très... Oui, très chastes en tout cas. Ce sont des personnages qui ont pour idéal Dieu dans leur vie. Quelqu'un devient vampire, le démon a sa marque sur lui. Il devient, il n'est plus lui-même, et d'ailleurs dans ce texte qu'on vient de lire, c'est bien ce qui apparaît, elle n'est plus elle-même, ce sont ses yeux quant à la forme, mais ce ne sont pas les yeux qu'on avait l'habitude de voir et qu'on avait aimés, ce sont d'autres yeux. C'est un autre personnage qui vient, et il est bien dit à quelques endroits de ce roman, de Stoker, qu'il y a comme un dédoublement de personnalité. Ce ne sont plus eux qui agissent, c'est le démon. Et le démon, surtout en ce 19e siècle, enfin déjà bien avant, le démon, c'est aussi l'emprise du sexe, entre autres. Alors ici, on a retenu surtout cet aspect-là, et évidemment, c'est ce qui va fasciner le plus le 20e siècle.
N'aie pas peur, reprit-elle. Ne crains rien, mon ami. Son visage se pencha sur le mien. Sur mes lèvres, je sentis une sensation étrange, quelque chose comme la piqûre d'un aiguillon émoussé, comme l'attouchement d'une sangsue qui ne mord pas encore. C'est la description parfaite du vampire, mais aussi de toute autre chose. Vous voyez ? Dans le cas du loup-garou, il y a également, on peut dire, sang, agressivité, viol, et par conséquent, sexualité extrêmement violente. Mais dans le loup-garou, il n'y a pas cette douceur sournoise qu'il y a dans le vampire. Et en feuilletant les poésies complètes de Yeats, j'en retrouve un tout petit qui s'appelle « L'huile et le sang ». L'huile dans le sens de l'huile sainte, les saintes huiles. Vous savez, cette huile qui coule des tombeaux des saints et qu'on recueille, n'est-ce pas? En dehors des saintes huiles qu'on appose aux mourants et autres personnages.
Dans les tombes d'or et de lapis-lazuli, les corps des hommes saints et des femmes saintes exudent une huile miraculeuse qui a l'odeur des violettes. Mais sous de lourdes charges d'argile qu'on piétine, sont étendus les corps des vampires, gorgés de sang. Leurs suaires sont sanglants, et leurs lèvres sont encore humides.
Ce qui me semble intéressant, c'est que dans ces deux tercets, Yeats a mis tout de suite le doigt sur le fait que le vampire, c'est le saint noir, c'est-à-dire celui qui ne se décompose pas dans sa tombe, comme cela arrive très souvent des saints, et qui, tout en étant mort, est toujours vivant et s'impose aux vivants. Il est donc la face nocturne de la sainteté.
Arthur lâcha le marteau. Il chancelait et serait tombé si nous n'avions pas été là pour le soutenir. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front, mais il haletait. L'effort qu'on avait exigé de lui, assurément, était surhumain. Et s'il n'y avait été obligé que par des considérations humaines, il ne l'eût jamais accompli. Pendant quelques minutes, nous fûmes donc occupés de lui seul, et aucun d'entre nous ne regarda plus le cercueil. Toutefois, lorsque nos yeux s'y posèrent à nouveau, nous ne pûmes retenir un murmure de surprise. Nous regardions avec une attention telle qu'Arthur se leva. Il s'était assis sur le sol et vint regarder lui aussi. Et sur son visage, une expression de joie remplaça la détresse et l'épouvante. Là, dans le cercueil, ne gisait plus l'horrible non-morte que nous avions fini par redouter et par haïr à tel point que le soin de la détruire avait été accordé comme un privilège à celui d'entre nous qui y avait le plus de droit. C'était Lucie, comme nous l'avions connue de son vivant, avec son visage d'une douceur et d'une pureté sans pareille. Le chagrin, les soucis, les souffrances avaient, il est vrai, marqué ce visage, mais il ne nous en était que plus cher. Chacun de nous sentit à ce moment que la sainte tranquillité qui se répandait, tel un rayon de soleil, sur ce pauvre visage et sur ce pauvre corps, n'était qu'un gage, qu'un symbole terrestre du repos éternel.
Donc ce qui apparaît très clairement à travers cette seconde mort et véritable mort maintenant de Lucie, c'est que Lucie est rendue d'abord à elle-même, c'est la première chose, qu'elle est délivrée de cette malédiction qui pesait sur elle, délivrée du démon, délivrée de la marque du vampire. Et en même temps, cette sanctification, il y a les termes de douceur sans pareil, pureté sans pareil, et enfin, symbole terrestre du repos éternel. Mais surtout ce visage qui change maintenant, ce visage qui reste marqué par la mort, par les souffrances, par le chagrin, mais ce visage qui redevient paisible. Et ça, nous le verrons encore mieux tout à fait au dénouement du roman. Et cette fois-ci, nous verrons à propos de Dracula. Mais l'histoire de Lucie préfigure, dans le fond, la deuxième partie du roman. Et cette deuxième partie du roman, je l'évoquerai très rapidement maintenant, à la fois pour venger Lucie et surtout pour éviter que le fléau ne se répande plus loin dans l'humanité. Parce que l'action de Dracula est comparée par les personnages du roman à l'action d'un caillou qu'on lance dans l'eau et qui fait des cercles de plus en plus grands. C'est-à-dire que l'humanité court le risque de devenir une humanité vampire. Et il faut donc venir à bout du monstre. Le terme de monstre est prononcé à plusieurs fois. Alors, Jonathan, le docteur Van Helsing, un certain nombre d'amis, et puis Mina, la femme de Jonathan, se mettent tous ensemble pour essayer de venir à bout du vampire. Chose curieuse, on va tenir Mina à l'écart. On dira, nous les hommes, nous pouvons faire ça. Mais vous les femmes, vous êtes trop sensibles. Alors restez de votre côté, aidez-nous, priez. Mais c'est seulement nous les hommes qui allons lutter contre le vampire. Et c'est d'ailleurs de là que va venir le malheur de Mina. Parce que pendant que les hommes sont donc comme des fiers à bras en train de lutter contre le vampire s'introduit dans la chambre de Mina sous forme de brouillard et il va vampiriser Mina. Enfin, la scène de vampirisme entre Dracula et Mina est une belle scène, vraiment tout à fait, alors là, cinématographique, je comprends que ça ait tenté le cinéma plus tard. Mais Mina se réveille, en somme, après cette espèce de transe où elle est vampirisée, et elle se réveille dans le désespoir. Et les autres qui arrivent à ce moment-là se rendent compte de ce qui vient de se passer, et se rendent compte aussi qu'ils en sont responsables, parce qu'ils ont laissé Mina toute seule. Et Mina se redresse en criant « Impur, je suis impur ». Or, Mina, c'est la femme pure par excellence. C'est la femme rédemptrice. C'est une espèce de Vierge Marie, si vous voulez. Et elle est aimée, enfin, c'est une espèce d'étoile pour tous ces hommes qui sont en train de lutter contre le vampire. Et justement, là, leur étoile vient d'être ternie. Leur étoile est maintenant dangereuse. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus compter sur elle. Ils sont obligés même de se méfier d'elle. Or, ils vont s'organiser, ils vont lutter tous ensemble avec un très grand courage. Mina, d'ailleurs, va les aider à sa manière. Ils vont s'organiser avec beaucoup d'intelligence pour que Mina soit une aide et non pas une entrave dans leur chasse aux vampires. Et ils y arriveront, c'est-à-dire qu'ils surveillent, bien sûr, l'évolution des signes vampiriques chez Mina. On surveille ses dents. Tant que ses dents ne sont pas trop aiguës, elle n'est pas trop dangereuse. Et il y a un mouvement d'émigration générale, c'est-à-dire Dracula et le petit groupe, et Mina, vers la Roumanie. Dracula se fait mettre sur un bateau et va regagner ce qu'on appelle dans le roman l'Orient. Et là, il y a quelque chose de très beau, parce qu'il ne faut pas oublier que le mouvement vers l'Orient, que ce soit le mouvement du pèlerin vers l'Orient, ou le mouvement du navigateur vers l'Orient, l'Orient, c'est le voyage initiatique par excellence. C'est le voyage vers soi-même, le voyage vers l'accomplissement de soi. C'est le voyage vers la divinité aussi. Et vraiment là, c'est tout à fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que le roman avance, et surtout au dénouement, c'est tout à fait le sens de ce voyage vers l'Orient. Une sorte de quête initiatique, de transfiguration de soi, de marche vers la purification. Ici, purification du monde, en somme, puisqu'il s'agit d'éliminer le monstre qui compromet l'humanité, et purification de l'être humain, Mina, entre autres. Les personnages ne cessent pas de dire « Dieu est avec nous ». Et il y a un passage, entre autres, qui est assez frappant, où Van Helsing fait l'analyse, je dirais, Van Helsing est un psychiatre, il fait l'analyse à la fois psychanalytique du personnage de Dracula. D'ailleurs, il y a parallèlement à Dracula un fou qui s'appelle Renfield, et qui est un fou banal, enfin un lycanthrope si vous voulez. J'en parle pas ici parce que ça complique. Mais il fait l'analyse psychanalytique du personnage Dracula et en même temps il dit ceci, en tant que criminel, il est égoïste. Son intelligence est étroite et son action fondée sur l'égoïsme, tandis que nous, Dieu est avec nous. Et par exemple, il prononce cette phrase... Qui est assez belle, à ces moments-là, enfin, ce pouvoir, le pouvoir que nous avons, nous, en somme, d'être un peu les rédempteurs de l'humanité, par le fait que nous poursuivons le monstre, ce pouvoir, il s'adresse à Mina, pour votre bien et pour celui d'autrui, Vous l'avez gagné en souffrant par ses mains. En somme, c'est parce que Mina a été contaminée par le vampire, c'est parce qu'elle souffre dans sa chair et dans son âme qu'elle va permettre la rédemption. C'est parce qu'elle a été souillée, en somme, qu'elle va permettre la purification. Et ça, je trouve que c'est extrêmement beau et extrêmement parlant aussi. Surtout pour une époque comme la nôtre, pour qui la rédemption ne veut plus dire grand-chose. Enfin, nous ne sommes plus dans un cycle chrétien, malgré tout, de réflexion. Nous sommes de moins en moins, même si on dit qu'il va y avoir un renouveau. Mais je crois que, justement, ce roman et cette vision de l'être souillé qui a accepté de... Enfin, qui a accepté, non, qui est souillé un peu à son corps défendant, mais enfin, qui accepte de servir à la purification, je crois que ça peut nous parler très profondément, dans la mesure où c'est une image à la fois complexe, mais profondément symbolique. Et je voudrais donc terminer avec la mort de Dracula. Dracula est acculé dans ses montagnes, au moment où il arrive à son château, au moment du coucher du soleil, plus particulièrement, c'est-à-dire au moment où, justement, le cadavre qui est dans le cercueil va se mettre à se réanimer et où il va redevenir dangereux, c'est-à-dire que c'est une question de minutes. Si on ne le tue pas à ce moment-là, la petite troupe d'hommes qui essaye de venir à bout du vampire est perdue et a perdu. Or, par chance, on va réussir à le tuer.
Le soleil était très bas et les ombres sur la neige étaient longues. Je vis le comte étendu dans le coffre, sur le sol. Des parcelles de bois avaient volé sur le corps lorsque la caisse avait été lancée à bas du char. Le comte était mortellement pâle, semblable à une image de cire. Ses yeux rouges avait l'affreux regard vindicatif que je ne connaissais que trop bien. Comme je le regardais, ses yeux aperçurent le soleil déclinant, et son regard haineux eut une lueur de triomphe. Mais à la seconde même, surgit l'éclat du grand couteau de Jonathan. Je jetai un cri en le voyant trancher la gorge, et au même moment, le coutelas de Monsieur Maurice pénétra en plein cœur. Ce fut comme un miracle. Oui, devant nos yeux et dans le temps d'un soupir, le corps tout entier se réduisit en poussière et disparut. Pour la joie de ma vie entière, au moment de la disparition suprême, une expression de paix se répandit sur ce visage où jamais je n'aurais cru que pût apparaître rien de tel. Le château de Dracula se détachait à présent sur le ciel rouge, et la lumière du couchant dessinait chaque pierre de ses créneaux rompus. Voyant en nous la cause de l'extraordinaire disparition du mort, les bohémiens firent demi-tour et sans un mot s'enfuirent comme si leur vie en dépendait. Ceux qui n'étaient pas montés sautèrent sur le camion en criant aux cavaliers de ne pas les abandonner. Les loups, qui s'étaient retirés à bonne distance, suivirent leurs traces, nous laissant seuls.
En somme, le vampire lui-même était sous l'emprise du démon, et Dracula est rendu à lui-même. C'est une délivrance. Il est rendu au temps, il est rendu à la mort, et il est rendu à cette personnalité, qui était une très forte personnalité, très belle personnalité, certainement, très développée. Et c'est très fugitif, cette expression de paix, évidemment, puisque le corps se dissout instantanément. Mais là encore, nous allons voir apparaître sur le front de Mina la même expression de paix, et c'est là-dessus que se termine le roman. Le meilleur ami de Mina, qui l'aimait d'ailleurs profondément d'amour, va mourir. Il a été blessé. Et il meurt en disant « Grâce soit rendue à Dieu. Tout ceci n'a pas été vain. Voyez, dit-il en montrant le front de Mina, la neige n'est pas plus pure que son front. La malédiction est effacée. » Donc ça se termine là-dessus. Et ça me fait un petit peu penser, là, dans le fond, à au dernier vers de Phèdre. Et la mort, dérobant à mes yeux la clarté, rend au jour qu'il souillait toute sa pureté.
Nosferatu, une symphonie de l'horreur, 1921-1922. 5 actes, première présentation, 5 mars 1922. Production, Prana Film. Découpage, Henrik Galen, d'après Dracula de Bram Stoker. Décor et costumes, Albin Grau. Caméra, Fritz Arno Wagner. Musique, Hans Erdmann. Interprète, Max Schreck. Graf Orlok, Nosferatu le vampire. Alexander Granach, Knock, agent immobilier. Gustav von Wangenheim, Hooter, son employé. Greta Schröder, Hélène, la femme de Hooter. Gustav Schnell, Harding, un armateur. Ruth Landschoff.
Dès l'origine, le cinéma s'intéresse aux histoires de vampires et d'une manière vraiment abondante. Je crois même que les films de vampires constituent la série la plus abondante qui existe dans l'histoire du cinéma. On a compté, je crois, près de 300 films développant le thème du vampire. Depuis, par exemple, un film de Robert Vignola en 1913, intitulé Le Vampire, qui a été suivi en 1914 de toute une série intitulée Vampire of the Night, The Vampire's Trail, The Vampire Stower. Vraiment une série prolifique. Jusqu'à nos jours, où chaque année, dans les festivals du fantastique par exemple, nous voyons s'exhiber des films de vampires.
Le bal des vampires, The Fearless Vampire Killers, long métrage en Metrocolor et Panavision, Grande-Bretagne, États-Unis. Durée 107 minutes. Réalisation, Roman Polanski. Scénario, Roman Polanski et Gérard Brache, d'après Gillian et John Soutreau. Directeur de la photographie, Douglas Lecombe. Musique, Comeda. Montage, Alastair McIntyre. Décor, Wilfried Shingleton. Ingénieur du son, George Stephenson. Costume, Sophie Devine. Assistant décorateur, Fred Carter. Assistant, Roy Stevens. Chorégraphe, Tuttle Lemkow. Production, cadre film, Filmways. Producteur, Jean Gutowski. Producteur exécutif, Martin Ramsauhoff. Interprétation.
Il y a réaction émotionnelle et probablement très forte. Au point que certains spectateurs reculent devant ce type d'émotion et refusent d'aller voir ces films de vampires. Au point que l'institution elle-même légifère en interdisant les films de vampires la plupart du temps aux 10 mineurs de moins de 13 ou de 18 ans. Et enfin, lorsque le spectateur va voir des films de vampires, fréquemment, il esquive l'émotion authentique par le biais d'un ricanement. On a eu souvent dans des salles que j'ai abondamment fréquentées, le Styx ou les salles de Pigalle à l'époque où les films de vampires étaient surtout dans ces salles-là, des réactions de public étaient extrêmement gênantes. Pourquoi ? Je pense que c'est une réaction de défense. Par le rire, on refuse, non pas de voir, puisque l'on voit, véritablement. La perception est réelle, elle est forte. Mais on refuse qu'il y ait résonance émotionnelle relativement à la vision. très souvent, les réalisateurs ne font rien d'autre qu'étaler la panoplie. Panoplie fort connue, ce sont les canines, les incisives qui sont saillantes, c'est le sang qui dégouline des lèvres, c'est éventuellement le corps tout entier qui s'épointe pour devenir rien d'autre qu'un être pointu, comme l'est le Nosferatu. C'est le regard qui se fait perçant, au point que dans le Dracula de Todd Browning, qui est en noir et blanc, qui date de 1930, il n'y avait pas encore utilisation de la couleur, c'est par le regard brillant, transperçant, que le vampire impose sa souveraineté. Il y a donc panoplie, il y a même panoplie technique, par exemple l'utilisation très abondante de la contre-plongée, lorsque le vampire apparaît au sommet d'un escalier, ou réciproquement de la plongée, lorsque tel ou tel amateur d'émotions fortes ou tel personnage introduit par le réalisateur descend les escaliers du souterrain pour aller ouvrir le cercueil d'où va surgir le vampire. Il y a donc panoplie à la fois esthétique et panoplie technique. Mais l'œuvre forte, l'œuvre qui nous touche directement, c'est celle qui réussit, par le moyen de ces divers signes, à atteindre en nous une structure émotionnelle qui est quelque chose de fondamental et d'élémentaire. Car qu'est-ce que le vampire ? Le vampire, c'est un mort qui revient nous voir sous l'aspect d'un vivant, le mort vivant. Or, si on se penche sur les éléments limites qui définissent la condition humaine, on s'aperçoit que la limite fondamentale, la limite essentielle, c'est celle qui sépare la vie de la mort. C'est là qu'il y a quelque chose de véritablement crucial dans la condition humaine. Or, le film de vampire n'est rien d'autre que le traitement de cette limite, que le passage de cette limite. Passage, passer une limite, en latin transgredior, transgression. Le film de vampire est donc un film qui travaille très exactement au niveau de la transgression de la vie à la mort, de la mort à la vie, et c'est le thème qui peut le plus fortement secouer le psychisme humain.
Murnau, de son vrai nom Friedrich Wilhelm Plumpe, est né le 28 décembre 1888 à Bielefeld. Il s'est tué en mars 1931 sur la route de Los Angeles à Monterey. Il est donc mort à 43 ans, après avoir réalisé 22 films.
Dans Les Vases communicants, livre qui est essentiellement consacré à l'étude des rapports entre le rêve et la veille, la vie de rêve et la vie quotidienne, Breton relate un rêve dans lequel il se voit portant une cravate d'une forme assez singulière, mais le détail importe peu, qui a comme marque de fabrique Nosferatu. Et au réveil, il s'étonne du fait qu'il a attribué dans son rêve à la cravate, objet vestimentaire qu'il déteste, le nom d'un film qui l'a séduit et qui a séduit à sa sortie peu d'années avant. On pourrait dire, vu que le rêve est lui-même antérieur à la rédaction du livre, quelques mois auparavant, ce film a séduit non seulement Breton, mais tous ses amis surréalistes. Et ce qui est assez remarquable, c'est que l'allusion qu'il y fait est une allusion poétique, mais au sens textuel du terme. Il ne s'étend pas du tout sur le personnage même de Nosferatu. Il parle de l'ambiance générale du film de Murnau, c'est-à-dire d'une ambiance gothique. Et il cite très particulièrement l'un des intertitres qui était la fameuse phrase, dit-il, « Quand il fut de l'autre côté du pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. » Cette phrase, qui est donc un des intertitres du film, un des titres, comme on disait à l'époque, du film, témoigne, selon Breton, de l'esprit surréaliste le plus général, c'est-à-dire qu'elle résume une attitude d'émerveillement et de peur mélangée que provoque un incident qu'on peut dire banal dans le déroulement du film, car ce pont n'est signalé que très fugitivement par quelques plans, ne se présente pas avec un appareil plus terrifiant que le reste du décor, et c'est cet aspect naturel des choses, cet aspect simple, n'est-ce pas, qui a séduit Breton et les surréalistes à l'époque. Franchir un pont peut suffire à faire apparaître des fantômes, les fantômes étant en l'occurrence ceux du fameux corbillard vide et spectral qui prend en charge le visiteur. À bien réfléchir, et compte tenu du fait que, à l'époque, il n'y a pratiquement pas d'autres témoignages d'une admiration particulière des surréalistes pour Murnau, et même pour Nosferatu, on peut penser que l'aspect vampirique du film leur est passé, non pas inaperçu, mais comme tout à fait secondaire par rapport à un autre jeu de référence entre l'imaginaire et le réel. C'est la simplicité même de cette phrase, qui n'était après tout qu'un titre jeté sur l'écran noir le temps que le spectateur le lise, la simplicité même de la phrase a plaider en sa faveur dans l'esprit de Breton. Parce que le surréalisme ne se présentait pas au départ à la recherche d'un appareillage de connaissances, je ne dirais même pas érudites, mais de connaissances simplement de curiosité particulière ou spécifique à l'égard des différentes formes du fantastique. Les surréalistes s'intéressaient beaucoup plus à l'interpénétration du fantastique possible, d'un fantastique virtuel, qui d'ailleurs dans leur esprit n'avait de sens que s'il débouchait sur le merveilleux, qui est un fantastique apaisé d'une certaine manière, en tout cas libéré de son poids obsessionnel, qu'à la recherche du pittoresque qu'implique aujourd'hui, et même qu'impliquait hier, j'allais dire, les recherches sur les vampires en particulier, ou sur une catégorie spéciale de fantômes. C'est le caractère très simple de la phrase, probablement aussi la mention du pont, qui est une chose, encore une fois, relativement simple, en un sens très chargé de signification, mais de signification au sens psychanalytique et au sens très générique du terme, n'est-ce pas, qui a retenu leur attention. Et ce qui est assez remarquable, c'est que l'ensemble du film les a forcément impressionnés. Ils n'ont pas vu un film pour un carton et une phrase. Ils n'ont pas aimé un film pour un carton et une phrase. Je crois que dès cette époque, ce qui a dû les frapper, c'est le fait que le film, on s'en aperçoit facilement quand on le revoit aujourd'hui, le film, bien que s'inscrivant dans un contexte qui est celui de l'expressionnisme, utilisant un matériau littéraire qui s'inscrit lui-même dans une tradition assez chargée, celle du roman gothique. Le film, aujourd'hui, me semble-t-il, se caractérise par une sorte de nudité dans la description. On a vu récemment le remake en forme d'hommage que Werner Herzog en a fait, et où il y a, à mon avis, de très belles choses, mais où l'auteur échoue, et d'ailleurs, il le savait en l'entreprenant, échoue à donner l'équivalence du mystère propre au Nosferatu de Murnau, tout simplement parce que, à partir du moment où l'on travaille en couleur et en écran large, et ce sont des procédés qui en eux-mêmes sont parfaitement applicables, même au fantastique, on ne peut pas retrouver le resserrement qui est propre au film de Murnau. Film où il suffit de trois plans de vagues le long d'un bateau, c'est ce qu'il y a de plus simple au monde, n'est-ce pas, rythmé d'une certaine manière pour donner la sensation que le vampire arrive de très loin. Eh bien, ces trois plans, comme des cadrages tout à fait simples sur des maisons qui ne sont même pas encore abandonnées par leurs habitants, mais dont nous devinons qu'elles vont l'être, n'est-ce pas, tout cela, on a parlé à cet égard assez curieusement d'un réalisme de Murnau, en fait, ça n'est ni réaliste ni fantastique. On pourrait dire à la limite que c'est surréaliste d'une certaine manière, mais surtout, ça se caractérise par une simplicité absolue.
On peut, je crois, effectivement parler de perfection concernant ce film de Murnau. Perfection dans l'agencement du personnage principal, Nosferatu, qui a été traité très exactement, je crois qu'on peut utiliser ce terme, en être pointu. Il est tout en pointe. En pointe, c'est-à-dire en forme, manifestant une agressivité essentielle. Il a le crâne pointu, les oreilles pointues, il a des ongles extrêmement crochus. Le dos lui-même s'épointe sous la forme d'une sorte de bosse. Son corps est immensément allongé. Le visage, le menton est aussi effilé. Il y a donc une sorte d'étirement stylistique du personnage qui est quelque chose de véritablement fascinant. Pour signifier quoi ? Dans la mesure où Nosferatu est un être qui agresse d'autres personnages, notamment des jeunes femmes. En l'occurrence, l'auteur Murnau a suivi très exactement, je crois, le texte de Bram Stoker. Il agresse des jeunes femmes, il les assaille, il s'empare de leur corps, il exerce une activité donc à la fois agressive et sexuelle. Ce qui nous amène à parler, pour le définir, d'un véritable phallus ambulant. On pourrait presque dire un phalambule. Mais encore une fois, en soulignant très fortement que cet épointement, cet effilement, cette pénétration sexuelle que réalise le vampire est étroitement et essentiellement liée au phénomène de la mort. Il donne la mort. Et d'ailleurs, quand il se promène fréquemment, c'est avec le cercueil sous le bras. Un autre aspect de la panoplie vampirique. Et on peut parler effectivement de poésie, dans la mesure où la thématique de la vie et de la mort, où les facteurs émotionnels prennent tous figure, et figure sensible, figure qui nous touche au niveau sensoriel, on pourrait même dire au niveau sensuel. La poésie elle-même est toujours transgression. Qu'est-ce qu'un poème, sinon la transgression du langage courant ? Donc au niveau formel, il y a transgression. La structure du langage poétique est une structure transgressive. Sauf que là où la poésie travaille au niveau du langage, le cinéma va travailler au niveau de la forme. Alors, d'ici à trouver des formes imagées ou imaginaires qui puissent être en corrélation avec les facteurs émotionnels, il y a évidemment tout un traitement qui n'a pas été toujours réussi par tous les réalisateurs. Nosferatu est un cas particulier. Il y a Vampire de Dreyer qui lui aussi, à sa manière, tout en reprenant un thème identique à celui de Nosferatu, donne des figures différentes. Il y a aussi Dracula de Todd Browning, qui lui aussi, sur un thème identique, propose toute une stylistique vraiment originale. Il y a poésie lorsque, sur une base identique de transgression, un artiste, en l'occurrence un réalisateur de cinéma, dessine et propose à notre perception des figures inédites.
Il y a une dégradation dans la commercialisation du cinéma de basse qualité à propos des vampires, alors là évidemment. Mais il y a aussi une dégradation qui est perversion. Et ici je pense en particulier au Nosferatu de Werner Herzog. Là où la perversion intervient, c'est que à la fin du film, le sacrifice de Lucie, je devrais d'ailleurs parler de ce sacrifice de Lucie, Lucie trouve ceci pour vaincre le vampire. Elle va se donner à lui. C'est-à-dire qu'elle se sacrifie, elle sacrifie sa vie. Et au cours d'une nuit, évidemment, très belle et traitée de manière très érotique, avec beaucoup d'habileté et d'intelligence par Werner Herzog, au cours de cette nuit, elle se donne au vampire, elle se vide de son sang, et Dracula lui-même s'oublie. C'est-à-dire qu'il va accepter, sans presque le savoir, mais enfin il va l'accepter implicitement, sa propre destruction, parce que l'aube paraît. Lucie sait qu'elle doit tenir jusqu'à l'aube, et elle tient jusqu'à l'aube. Et Dracula, enfin plutôt Nosferatu, puisqu'il s'agit de Nosferatu ici, Nosferatu oublie que le jour va se lever. Et Nosferatu meurt au premier rayon de l'aube, au moment même où Lucie meurt elle-même. Donc on pourrait se dire, voilà, la rédemption est accomplie. Eh bien non, la rédemption n'est pas accomplie, parce que Jonathan, le mari de Lucy, va se transformer à son tour en vampire. Au moment même où Nosferatu meurt, Jonathan devient vampire. Il y a une perversion double, en ce sens que, d'abord, ce n'est pas, je dirais, fidèle au mécanisme du sacrifice, et ensuite, ce n'est pas fidèle non plus à une espèce de logique amoureuse, parce que c'est pour la rédemption de Jonathan que Lucy s'est sacrifiée dans le film de Herzog. Je ne veux pas entrer dans le détail ici, ça nous mènerait trop loin. Donc, Jonathan prend un cheval, s'en va courir le monde, sur fond de Sanctus Dominus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et le film se termine sur cette image. En somme, le mal court. C'est donc la mort qui a raison dans ce film. Mais pas n'importe quelle mort. La mort du non-mort. La mort du mort-vivant. Et D.H. Lawrence disait déjà dans son livre Apocalypse, l'énigme du sphinx est aujourd'hui plus vivante que jamais. L'énigme du sphinx qui est l'énigme de l'homme mort-vivant. C'est autour de cette énigme que notre XXe siècle s'organise.
La matinée des autres. Le folklore des vampires par Roland Auguet. Avec Roger Dadoun, écrivain. Georges Dretas, attaché de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Serge Fauchereau, écrivain. Claude Capler, maître assistant à l'Université de Strasbourg. Gérard Legrand, écrivain. Roland Villeneuve, écrivain. Livre Antoine Fèvre, Les Vampires, édition Pauvert. Bram Stoker, Dracula, édition Marabout. Roland Villeneuve, Loups-garous et Vampires, édition Marabout. Texte Tourguenieff, Georges Bataille, Yeats. Lu par Frédéric Cantrel, Jacques Frantz, Richard Leduc. Réalisation Anne-Marie Abou.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 octobre 1980. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.